Voilà, de retour sur les ondes de Canal Sud 92.2 avec Amaël du collectif Ariégeois Apéro Contraceptif. Est-ce qu'on peut aborder la contraception masculine sans interroger les masculinités et les normes virilistes ?
C'est pas une question facile. C'est potentiellement qu'un outil, la contraception dite masculine. Mais du coup, pour une société plus saine, plus égalitaire, moins patriarcale, il faut évidemment questionner ses masculinités et puis ses normes pour pouvoir aussi parler à tout le monde. Voilà, en fait, ça marchera pas la contraception masculine sans tout réinterroger les relations hommes-femmes, le partage de la charge, les droits, etc. Et puis, je pense que ça sera beaucoup plus simple aussi de parler et de faire accepter cette contraception masculine dans une société qui est moins patriarcale de base, en fait.
Quand on parle de masculinité toxique, on se dit tout de suite, mais pas moi, c'est pas possible, j'ai échappé à cette masculinité-là, et puis moi je reçois des commentaires d'hommes qui disent « mais moi je suis pas comme ça, moi je fais la vaisselle », bah encore heureux, bravo, tu fais la vaisselle. Quand on est un garçon, la manière dont on devient un homme dans cette société, elle est toujours la même, elle se construit à la fois par détestation du féminin, c'est-à-dire la couleur rose, tout ce qui peut être rapporté à des sports typiquement féminins, et tout ça, ça construit une masculinité qui est intrinsèquement toxique. Je suis intimement persuadé que l'homophobie est un des visages du sexisme, évidemment, et notamment des études qui montrent que un enfant, un adolescent, entend 10 à 15 fois par jour dans la cour d'école ou dans la cour du collège, gros PD, sale PD, etc. Comment est-ce qu'on se construit une identité? Comment est-ce qu'on arrive à s'aimer à l'adolescence qui est un âge si difficile alors qu'on entend 10 fois par jour que ce qu'on est la pire des insultes?
Masculinité toxique. Ensemble de règles non écrites qui dictent aux garçons comment se comporter pour être un homme selon les critères de la société. OK. Ce que ça veut dire, c'est comme un livre invisible. Avec des lois invisibles qu'on s'impose pour être des vrais gars. Faut que je sois un vrai gars. Ben, rentre pas là, mon homme. La masculinité toxique n'est pas que l'apparence physique ou avoir l'air fort, ton ossature, non. Ça peut être psychologique aussi. Exemple, quelqu'un pleure. Puis là, on dit hey, « arrête de pleurer, maudit fif ». Pourquoi il dirait ça? C'est ridicule de dire ça. On dit pas ces choses-là. On l'a accepté trop longtemps.
Non, c'est clair qu'on est dans une socialisation masculine. On imaginait autour de la puissance, de la fertilité, fonctionne encore comme des verrous idéologiques. La résistance à la contraception masculine est un symptôme social.
Oui, carrément. Et puis avec des injonctions à être fort, à être puissant, à bander longtemps, à éjaculer. Et être fertile, c'est aussi un synonyme de puissance et de masculinité. Donc c'est vrai que des fois, parler de réduire sa fertilité, et ben ça choque certains hommes qui ont l'impression d'être touchés au plus profond d'eux-mêmes parce qu'on touche à leur spermatozoïde. Quoi. Voilà.
Je crois que la réaction d'un mari, dans ce cas-là, peut être double et mal comprise. Donc on a facilement tendance à confondre impuissance et stérilité. L'homme, en tout cas, non. Ce n'est pas votre avis, monsieur le professeur.
Ah, l'homme est certainement atteint dans sa dignité quand on lui annonce, même avec ménagement, une stérilité. Et je crois que c'est parce que dans notre esprit mâle, on lie un petit peu la fonction sexuelle et la fonction de reproduction. Effectivement, elle va ensemble, mais un homme peut être parfaitement puissant et même hypergénésique alors qu'il est stérile, ou tout au moins... pour des causes tout à fait accidentelles d'ailleurs, qui ne dépendent pas de lui, ça n'est pas de sa faute. Nous avons cité les oreillons, les interventions précoces, il y en a bien d'autres qui lèsent le testicule sans que l'homme soit atteint en quoi que ce soit dans sa dignité, dans sa puissance de mâle. C'est des choses tout à fait différentes.
C'est aussi un peu faire un pas de côté, seulement c'est assez marginal, voire même artisanal. Nous, là, notre méthode réchauffement testiculaire, on fabrique, on coud nous-mêmes nos dispositifs. Donc il faut aussi se bouger un petit peu pour... il faut vouloir le faire soi-même, quoi. Il n'y a même pas de solution vraiment clé en main qui existe actuellement. Alors là, il commence à y avoir quelques personnes qui cherchent à vendre ces dispositifs-là. Il n'y a pas un truc simple, facile. D'ailleurs, la pilule pour hommes, on parle depuis peut-être 30 ou 50 ans, et on dit « Ah, c'est pour bientôt, ça arrive jamais, parce que dès qu'il y a un petit effet secondaire, on la met de côté, parce que ça ne va pas être accepté par les hommes. »
Ouais, alors que la liste des effets secondaires de la pilule et des hormones... féminine, c'est catastrophique. Quoi.
Oui, oui, carrément. Mais là, du coup, encore, société patriarcale, ouais. Potentiellement, c'est des hommes qui font les recherches, qui sont dans les labos, et puis, bah, du coup, qui refusent ces effets secondaires s'ils existent. Quoi.
On voit tout au long de notre enquête et du livre, c'est qu'à chaque fois, quand on décèle des effets secondaires négatifs pour les hommes, par exemple les sautes de libido, c'est tout de suite très vite pris en compte et de façon très importante, alors que ça n'a jamais été chez les femmes. Chez les femmes, quand la pilule contraceptive a été testée et qu'on a identifié assez rapidement ces problèmes, on n'a pas considéré que voilà, il fallait s'arrêter. L'histoire de la contraception féminine, c'est une histoire de recherche qui a fait des morts. C'est l'histoire de femmes qui aujourd'hui ont des gros soucis, des gros effets secondaires encore aujourd'hui. C'est la crise de la pilule de la troisième génération, etc.
Mais tu as soulevé un point qui me semble vraiment important sur le biais normatif autour de la sexualité, en fait, et des représentations très virilistes autour, comme tu l'as dit, de l'éjaculation, par exemple. Toi, pour reprendre un peu ton parcours, donc on a compris qu'il y a eu un événement, en fait, et souvent, chez les hommes, on va pas se mentir, il faut être d'un coup concerné, impacté, j'ai l'impression, pour enclencher toute une réflexion autour de ça. Mais t'as été construit aussi dans cette société. Tout nous amène des privilèges. Qu'est-ce qui fait que dans ton parcours personnel, t'as amené un peu de réflexion ou de critique, voire d'autocritique par la suite sur ton propre comportement?
C'est une construction personnelle. Par exemple, mon père m'a pas spécialement transmis énormément d'infos à ce sujet, ma mère non plus, mais j'ai questionné mes privilèges, on m'a des fois mis face à
des paradoxes.
Oui, voilà, ou des trucs que je faisais mal, en se questionnant régulièrement, qu'on évolue vers ce chemin-là, quoi. La transmission par les pères, donc P-R-E-S, mais aussi par les autres ouais. Hommes, en fait, elle est assez rare, on parle assez peu entre nous, les hommes, d'intimité ou sexualité, en tout cas, ça parle un peu plus performance. Ce soir, j'étais avec une nana, voilà, mais pas les détails intimes. Avec une copine dans mes premières relations sexuelles, à un moment, je me suis déchiré le frein. Petite déchirure, et en fait après, en parlant un peu autour de moi, je me suis rendu compte que c'était arrivé à plein de mecs, mais alors qu'avant je savais même pas que ça existait. Ouais, mais ouais. Bon, mon père ça lui était arrivé, mon frère aussi, et puis plein de copains, les petits bobos du zizi par exemple. On en parle assez peu entre mecs parce que on a confiance, c'est intime, tout ça, et aussi on n'a pas de médecin de gynéco. Ça existe, les andrologues, mais c'est pas un médecin qu'on va voir spontanément, c'est pas du tout dans la norme, alors que les femmes, dès qu'elles ont passé la puberté, elles commencent à aller voir le gynéco. Et puis donc c'est les gynécos ou les sages-femmes qui les éduquent à la santé sexuelle et à la contraception. Et voilà, alors que les hommes, rien du tout, quoi.
Je crois que la réaction d'un mari, dans ce cas-là, peut être double et mal comprise. Donc on a facilement tendance à confondre impuissance et stérilité. L'homme, en tout cas, non, ce n'est pas votre avis, monsieur le professeur.
Ah, l'homme est certainement atteint dans sa dignité quand on lui annonce, même avec ménagement, une stérilité. Et je crois que c'est parce que dans notre esprit mâle, on lie un petit peu la fonction sexuelle et la fonction de reproduction. Effectivement, elle va ensemble, mais un homme peut être parfaitement puissant et même hypergénésique alors qu'il est stérile, ou tout au moins... pour des causes tout à fait accidentelles, d'ailleurs, qui ne dépendent pas de lui, ça n'est pas de sa faute. Nous avons cité les oreillons, les interventions précoces, il y en a bien d'autres qui lèsent le testicule sans que l'homme soit atteint en quoi que ce soit dans sa dignité, dans sa puissance de mâle. C'est des choses tout à fait différentes.
C'est devenu un sujet un petit peu à la mode pendant un moment, il y a quelques années, la contraception masculine. Est-ce que tu ne crains pas qu'en devenant peut-être un marché, en tout cas une technologie institutionnalisée, cette contraception masculine perde de son potentiel politique, son ancrage dans l'auto-organisation, au profit peut-être d'un imaginaire plus commercial et dépolitisé?
Eh ben, je pense pas que ce soit si grave, parce que si ça facilite l'accès et les connaissances et la pratique à grande échelle, ce sera quand même un très grand pas, très intéressant. Mais je suis pas sûr non plus que, en fait, ça fasse perdre son potentiel politique et militant non plus. Parce qu'il y aura toujours des choses à défendre, à réclamer. Si on essaie de comparer avec l'avortement et le droit à l'IVG, enfin, voilà, il y a eu du militantisme pour que ça devienne légal. Après, ça s'est un peu ancré créé, normalisé dans la société. Et là, même, c'était l'année dernière, c'est rentré dans la Constitution. C'est pas par magie que c'est rentré dans la Constitution. C'est aussi parce qu'il y a des gens qui continuent à militer pour ce droit, pour l'améliorer, pour empêcher qu'il soit attaqué aussi. Il y a des mobilisations dès que ce droit est un peu attaqué. Je crois que c'est encore aussi très militant pour toutes celles qui sont oubliées, parce qu'en fait, même si c'est un droit, c'est pas une garantie, en fait. C'est-à-dire qu'il y a plein de femmes pour qui l'accès à l'IVG peut être compliqué, soit parce que t'habites dans un désert médical, soit parce que tu fais partie de minorités pour lesquelles l'accès est plus difficile, que tu sois travailleuse du sexe. Enfin voilà, des minorités qui sont un peu oubliées du monde médical ou des institutions. Donc il faut encore militer aujourd'hui pour l'IVG. Donc pour la contraception dite masculine, on pourra encore garder tout ce potentiel militant à ce niveau-là, quoi.
Moi, c'est le côté plus commerce, parce que c'est vrai que pour l'instant, on est sur quelque chose un peu d'artisanal. Là, tu as amené quelques prototypes. Mais ce qui me semble important, ce sont les idées. Et il ne faut pas le ramener ou l'identifier soit à une personne, tu vois, soit à un site marchand.
Je pense que même entre nous, on n'est pas forcément tous d'accord. Et même nous, à notre petite échelle, on le voit. Il y a des gars qui viennent nous voir, qui discutent et puis qui n'ont pas envie, pas la possibilité, peu importe la raison, mais qui ne veulent pas le fabriquer eux-mêmes et qui passent déjà par les très rares solutions commerciales qui existent. Donc on peut acheter l'anneau en silicone, il s'achète sur Internet. Et des jockstraps aussi, nous, ce qu'on propose à la couture, s'achète aussi. Donc on fait des tests avec un gabarit et puis on envoie les mesures à la personne et puis elle en coud 5 ou 10 et elle les envoie et voilà, on peut les acheter. Et donc j'ai des copains qu'on préférait ça plutôt que de se les fabriquer eux-mêmes. Et puis là, j'ai vu récemment qu'il y avait une des étudiantes qui regardait si c'était faisable de faire un slip aussi contraceptif à visée commerciale pour faciliter en fait la diffusion de la méthode.
Non, carrément, mais que l'un ne tue pas l'autre, parce que le commerce va amener une réglementation et puis un monopole progressivement et puis des surprofits dans un endroit qui pour l'instant est préservé de ça, quoi.
Oui, carrément. Ça restera faisable de le faire soi-même. C'est pas parce que la commercialisation sera là qu'on pourra plus le faire soi-même. C'est comme réparer son vélo, en fait. On peut le faire soi-même, mais beaucoup de gens préfèrent la facilité de l'amener chez le réparateur. Ça, après, bon, ça sera un peu aux gens de choisir, je pense.
Temps d'être femme, d'être ronde et chaude comme du pain. C'est fini le temps des femelles, des mamelles, des nourrices et du sein. C'est fini. C'est fini le temps d'être femme, d'être ronde et chaude comme du pain. C'est fini le temps des femelles, des mamelles, des nourrices et du sein. C'est fini. Place au temps de l'homme qui dormait, qui veillait d'un œil patriarche sur mon ventre et ma chair et mes cuisses et ses terres et ses serres et ses vaches. Place au temps de l'homme qui se libère et qui s'arrache. Place au temps de l'homme qui m'habite. Homme en moi, toi l'homme, le macho dans mes tripes. Homme en moi, toi l'homme, l'homme qui m'habite. Toi qui te cachais derrière mon féminisme sournois, toi que j'écoutais sans savoir, toi qui exerçais ton hystérisant pouvoir, toi qui m'as dressé contre toi, toi l'homme en moi, tu as mangé ton hôte, la femme est bien digérée, ça y est, il n'en reste plus qu'une fumante apocalypse, la place est à toi, homme, ça y est, je l'ai conquis mon grand H, je n'ai plus peur, plus mal au ventre, plus de lait dans mes piles, le clito desséché, ça y est, je l'ai conquis mon grand H, à la sueur de mon front, à la sueur de ma voix, ça y est, je suis un homme, je suis un homme. toi par ma chère androgyne, qu'une dernière fois j'accomplisse la pénible et féminine besogne de toi, homme. J'accouche. Ça y est, je l'ai conquis, mon grand H. Ça y est, je n'ai plus peur. Ça y est, je suis un homme. Ça y est, homme, tu es moi. Homme, tu es libre. Ça y est, je suis un homme. Place au temps de l'homme qui se libère et qui s'arrache. Place au temps de l'homme qui m'habite, 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 m'habite. Le macho, le macho, le macho dans mes tripes. Oh, ça suffit, arrête, stop, 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 ça suffit. C'est fini.